France Culture.
Une histoire particulière, le premier sex shop, une histoire allemande. Marie Chartron, Franklin. Premier épisode, libérer les corps.
Vous voyez là, sur la photo, c'est la production des préservatifs. On voit comment on les enroulait. Ils arrivaient ici bruts. Les dames les enfilaient sur des cylindres, les enroulaient et les emballaient. Ça, c'est une vieille photo. Et là, c'est la boutique Beate Use. En 1962. Le premier sex shop. À Flensburg. Une vraie boutique spécialisée dans l'hygiène du couple. Très formelle, vitrine très correcte, avec une librairie spécialisée. Il fallait rester le plus discret possible, le plus sérieux, pour ne pas scandaliser.
Aujourd'hui, ce n'est plus un problème. Mais ne serait-ce qu'il y a 30 ans, c'était différent. Je me souviens quand j'ai commencé ici en 1989. Le 1er décembre, juste après la chute du mur. J'ai rapporté des catalogues et des calendriers chez mes parents. J'habite encore chez eux. Je les ai posés sur la table.
Mon père
est devenu tout rouge. Cache-toi ça, cache-moi ça. Il ne voulait pas voir ça. Mais je crois qu'aujourd'hui, ça a changé. Au début, les employés étaient à 80% des femmes. On pensait qu'elles étaient plus minutieuses. Elles faisaient bien les paquets. Ça les intéressait peut-être plus que les hommes de faire ce genre de boulot. Et surtout, elles n'étaient pas distraites par toutes les photos. Ça, c'est pas sûr.
Non, c'est vrai. Au début, on enroulait les préservatifs. On travaillait les matières brutes, on les lubrifiait, jusqu'à ce que la loi devienne tellement stricte qu'il a fallu déplacer la production. À l'époque, tout était fabriqué maison. Par ces femmes en blouse, il y avait encore beaucoup de tâches manuelles réalisées en majorité par des femmes.
Mes parents étaient enthousiastes parce que Orion et Beate Use étaient connus pour être de bons employeurs. Ils étaient contents qu'on puisse travailler là-bas. Eh bien, les miens auraient sans doute préféré que je fasse un boulot plus sérieux. Vraiment sérieux. À l'Office fédéral des véhicules à moteur, par exemple. Ou bien à la ville, ou chez Motorola.
Une jolie petite ville au nord de l'Allemagne, tout contre la frontière danoise, nichée sur la Baltique à l'extrémité d'un bras de mer. Nous sommes à Flensburg. Autour de petits gâteaux, dans une salle lumineuse, Maike Rotermund, Tanja Johansen et Ulrike Alisch. Le siège moderne d'une entreprise comme une autre, à ce détail près qu'il s'agit d'une institution allemande de la vente par correspondance d'articles érotiques. Orion. Cette histoire d'aujourd'hui est l'héritière d'une autre qui naît au lendemain de la guerre et a un visage de femme, celui de Beate Rotermund, plus communément appelée Beate Use. Ce nom célèbre, peut-être même culte, qui s'affichait sur des enseignes jusque dans le nord de la France et en Europe du Nord, nous fait remonter le cours de l'histoire allemande.
Nous sommes dans la capitale de l'érotisme. Un pur hasard que ce soit tombé là, dans le Nord.
Maike Rothermund, directrice d'Orion.
Mais je pense que la proximité avec la frontière danoise a aidé. C'était un peu plus détendu, les gens sont plus ouverts.
En
septembre 1962, la vente par correspondance de Beate Uzeu était déjà bien développée. L'idée d'un nouveau canal de distribution a émergé. Une sorte de commerce de détail. Une boutique.
Es gab aber durchaus ein bisschen,
Jan Kirchner,
Bedenken,
journaliste.
So ein Geschäft, mit
mais on redoutait un peu la réaction des gens
und weiteren,
face à un magasin de lingerie,
Produkte,
de préservatifs et d'autres articles du même genre.
Es gab also einige Mitarbeiter die Befürchtung, dass vielleicht jemand das Schaufenster einwerfen.
Certains employés avaient même peur que quelqu'un ne caillasse la vitrine.
Und, ja,
alors on a décidé d'ouvrir la boutique à une période où cela passerait inaperçu. Le magasin de la Angelburger Straße a donc ouvert juste avant Noël, très discrètement. Pas un mot dans la presse locale, le Flensburger Tageblatt.
Et
il n'y a pas eu de pierre dans la vitrine, bien au contraire. Le magasin a été un tel succès que de nombreux autres ont rapidement vu le jour dans d'autres villes d'Allemagne.
Beate Uzeu est une personnalité ultra connue de l'autre côté du Rhin. C'est une femme aussi, donc ça joue aussi dans la représentation publique et en tout cas le degré de renommée qu'elle a, c'est très important pour cette histoire de l'après-guerre.
Patrick Farge, historien.
Elle traverse en fait un peu toute l'histoire de l'Allemagne au XXe siècle, ça aussi c'est important. Elle est à la fois une référence évidemment pour l'Allemagne de l'Ouest, mais elle a vécu aussi la réunification. Elle a une préhistoire aussi, sous le nazisme. Il y a cet élément-là qui fait d'elle cette personnalité qui traverse l'histoire de l'Allemagne. Par ailleurs, elle a été reconnue, hein. Elle a obtenu un certain nombre de décorations. Elle est nommée citoyenne d'honneur de la ville de Flensburg en 1999. Donc non seulement elle est connue de tous les Allemands, hommes et femmes, et des couples, pour ce qu'elle a fait pour la partie de sexologie et d'érotisme en Allemagne, mais elle est aussi reconnue par les institutions, d'une certaine manière, qui lui donnent ses décorations. Et puis par ailleurs, elle ouvre un musée érotique dans le Berlin tout juste réunifié. Donc voilà, c'est pour un peu donner, disons, l'ampleur de ce personnage pour ce qui est de l'histoire de l'après-guerre allemand.
Il faut bien comprendre le concept de Beate Uzeu. Elle est née en 1919 à une époque influencée par les idées de la Lebensreform, la réforme de la vie, ce mouvement qui prenait le retour à la nature.
Nadine Beck, chercheuse en histoire culturelle.
Elle porte les cheveux courts, elle pilote. C'est une self-made woman. Une femme qui est peut-être aussi à l'image de son époque, qui renverse les barrières et permet de parler et penser la sexualité autrement.
Je me souviens très bien. J'ai eu beaucoup de chance avec mes parents. Ma mère était l'une des trois premières femmes médecins en Allemagne. Elle m'a donné très tôt une éducation sexuelle. Et puis, j'étais une enfant de la campagne. Mes parents avaient un domaine agricole en Prusse orientale. Et les enfants de la campagne savent très bien comment ça se passe pour les animaux. Mon père m'expliquait avec les taureaux, les vaches et les veaux. Et ma mère complétait avec l'explication théorique.
C'est sans doute une histoire très allemande que celle de Beate Uzeu. Sans doute qu'il y a des choses qui sont réplicables dans d'autres pays. Et que le commerce du sexe est international, évidemment. Mais dans ses particularités, dans la spécificité de cette femme qui traverse le XXe siècle allemand, il y a aussi quand même quelque chose de très fortement ancré dans cette culture du corps allemande.
Nous vivions en Prusse orientale, au bord de la mer Baltique, à seulement 5 minutes à pied de la plage. Ma mère m'emmenait à la plage et elle me disait « Pas besoin de maillot de bain, c'est mauvais pour la santé quand ça reste mouillé et que ça colle à la peau. Tu peux très bien te baigner nu. » À l'époque, de toute façon, il n'y avait pas grand monde sur la plage, mais je suis venue très tôt au naturisme et au nudisme.
Je pense qu'elle a eu une enfance relativement libérale. Libre aussi de toute forme de discrimination. Puis elle a grandi et a été socialisée sous le nazisme. Elle voulait devenir pilote et elle l'est devenue.
Harald Jenner, auteur et journaliste.
Elle s'intéressait beaucoup à la technique et a travaillé chez un constructeur d'avions comme pilote convoyeur. Ensuite, au début de la guerre, elle a commencé à acheminer des avions entre les usines aéronautiques et le front.
Beate Uhse, elle est assez symptomatique de cette génération de femmes qui ont pu s'émanciper dans le nazisme. On a beaucoup d'exemples générationnels de ces femmes nées entre 1915 et 1925 qui s'émancipent dans et par le nazisme. Parce que le nazisme cherche à s'appuyer en particulier sur des jeunes femmes célibataires pour les faire adhérer au régime dans des tas de métiers, des métiers parfois féminins. Voilà, on s'occupe d'enfants, dans des métiers du care, on dirait aujourd'hui, mais aussi dans des métiers plus inattendus, comme celui d'aviatrice.
Il y a aussi la question du rapport à la sexualité sous le nazisme. On a tendance à penser que c'était une époque très répressive sur le plan sexuel. Très centré sur la famille, sur la mère.
Sehr auf die Familie fixiert ist, auf die Mutter. Das ist zum Teil auch wahr.
C'est vrai en partie. War vor allen Dingen aus le nazisme était surtout focalisé sur la procréation. Il fallait à tout prix faire des enfants, des Krieges, surtout après le début de la guerre.
Da galt den NS-Leuten
Sexualmoral. À ce moment-là, la morale sexuelle comptait très peu pour les nazis.
Le nazisme, finalement, repose sur l'idée que l'on renverse les valeurs. Le nazisme est une immense dictature génocidaire, raciste, qui repose sur une hiérarchie des races et sur un antisémitisme d'État, etc., etc. Mais les questions de classe sociale, les questions de genre, par exemple, elles sont moins importantes que la question de la race. Et pour peu que l'on soit du bon côté de la barrière raciale, on a de nouvelles possibilités qui s'ouvrent, et notamment des possibilités d'émancipation sexuelle.
Himmler, par exemple, prônait l'amour libre et interdisait la contraception.
Man predigte geradezu freie Liebe, allerdings in einem rassistischen Kontext.
On prêchait presque l'amour libre, mais dans un contexte raciste.
Rasse romantique, so lange.
Une espèce de romantisme de la race.
Sexualität zwischen der sogenannten Herrenrasse, also den Aryan, ausgeübt wurde.
Tant que la sexualité se passait entre membres de la soi-disant race supérieure, c'est-à-dire les Aryens,
weil sie eben
rien n'était jamais trop permissif pour les nazis.
An Nachwuchs, an Kindern interessiert war.
Parce que ce qui les intéressait avant tout, c'était la descendance.
Sexuelle, érotische Beziehung.
C'est pourquoi il pénalisait d'autant plus violemment les relations sexuelles entre personnes dites ariennes et juives
und unerbittlich die Homosexualität.
Et réprimait impitoyablement l'homosexualité.
Le régime nazi n'est pas un régime prude. C'est un régime qui tente de rallier à lui aussi par une sexualité plus libre des personnes, en particulier des jeunes personnes, disons la génération née entre 1915 et 1925, c'est exactement la génération de Beate Uhse, en leur donnant des possibilités d'expérimentation sexuelle de différents types, sexualité avant le mariage, sexualité de la jeunesse, dans les jeunesses hitlériennes et dans l'Union des jeunes filles allemandes, hein, ce qui sont ces organisations nazies de jeunesse, on expérimente avec la sexualité. Polyamour aussi, il y a des histoires de polyamour sous le nazisme dont on se rend compte qu'elles ne sont pas punies sévèrement par la loi. Expérimentation évidemment sexuelle et de violence sexuelle avec la guerre. Les hommes soldats de la Wehrmacht qui sont présents dans toute l'Europe, à l'ouest comme à l'est, font des expériences sexuelles de conquête par la violence sexuelle aussi, par les viols.
Und Berlin war dann auch in der April dann schon eingeschlossen.
En avril 1945, Berlin est déjà encerclé.
Beate Uhse war noch da, wohnte ja da.
Beate Uhse est veuve,
mit einem kleinen Sohn,
mère d'un petit garçon,
Kindermädchen.
Une nourrice les accompagne.
Und sie gab es natürlich auch dann auf den Befehl.
Les militaires reçoivent l'ordre de quitter Berlin pour le Nord.
Berlin dann zu verlassen Richtung Norden. Richtung Schleswig-Holstein.
Schleswig-Holstein.
Das war der nach Norden geflogen und ist dann gelandet auf dem Flugplatz in Leck, in Nordfriesland.
Das elle prend un avion et atterrit sur un aérodrome en Frise du Nord à 40 Kilometer environ de Flensburg.
40 Kilometer.
Und landet nun Beate Uhse.
Beate Uhse atterrit dans la zone d'occupation britannique. Elle est d'abord internée.
Da kommt jemand,
quelqu'un qui arrive en avion, bien entendu, c'est très suspect.
Dann kriegt man schnell raus, ist auch noch
d'autant pilote, plus qu'on comprend vite qu'elle est pilote.
Gekämpft,
mais comme elle ne semble pas avoir été impliquée dans des attaques aériennes,
relativ schnell freigelassen.
On la libère assez vite.
À l'issue de la guerre, elle est jeune. Elle est encore très jeune, elle a 26 ans. Elle vient de perdre son mari. Elle a un enfant en bas âge. Et qu'est-ce qu'elle fait? Flensburg, c'est près de la frontière danoise. Donc il y a des possibilités, effectivement, de marché noir, d'aller se procurer des denrées et de les vendre sur le marché noir. Donc oui, en cela, c'est une activité qui est très liée à la sortie de guerre et qui est très liée à cet état de chaos dans ces 4 ans entre 1945 et 1949.
Et puis... pragmatisch wie sie ist,
pragmatique comme elle est,
macht ein bisschen Schwarzmarkt,
elle fait un peu de marché noir et essaie de vendre n'importe quoi.
Alles mögliche,
elle fait du porte-à-porte avec son petit commerce de bouton.
Geht von Haus zu Haus und hat so einen Knopfhandel.
Au début, c'est sa spécialité.
Sich spezialisiert. Und,
et lors de ses visites à domicile,
so, kommt sie mit den vielen
elle entre en conversation avec de nombreuses personnes.
Frauen sind natürlich vor allen Dingen Frauen, die meisten Männer sind ja
surtout des femmes, bien sûr.
Noch, oder
car la plupart des hommes sont encore prisonniers de guerre ou sont morts. Ceux qui ont survécu sont d'autant plus convoités.
Und dann entdeckt sie ein riesen
en discutant avec ces femmes,
Frauen haben, nämlich
elle découvre un immense problème commun à toutes.
Die Frage, also wie,
la contraception.
Wie verhindert man
comment éviter une grossesse? Beaucoup de ces femmes sont seules.
Alleine, eine absolut unsichere
c'est une époque
Zeit,
profondément incertaine,
voller Gefahren auch,
pleine de peur,
und andererseits eine
pleine de danger,
Zeit, in der man eine Menge Sehnsucht
mais aussi une époque où les gens ont un grand besoin les uns des autres.
Meisten Beziehungen sind zerrissen, zerstört.
La plupart des relations ont été brisées, détruites. La guerre a dispersé les gens.
Sucht man neue
Beziehungen. Et chacun cherche à reconstruire de nouveaux liens.
Der Angst hat man natürlich
dans une période d'angoisse,
umso nötiger,
on a d'autant plus besoin de relations humaines.
Es gibt dann
on explore, on fait des expériences. Et la société connaît une phase d'amour libre, d'expérimentation.
C'est là qu'on retrouve la double morale des années 40 et 50.
Hatten quasi für ihre Familie kein
beaucoup d'hommes étaient morts à la guerre, beaucoup de femmes se retrouvaient sans soutien familial et devaient se débrouiller seules.
Und dann musste man
il y avait parfois des liaisons et il fallait veiller à ne pas avoir d'enfants.
Die, ja,
mais ces relations existaient bel et bien.
Also sehr viele Beziehungen,
toutes ces liaisons qu'on réprouve die, habituellement.
Sagen, im normalen gesellschaftlichen Ansehen,
avoir un amant ou ce qu'on appelait alors l'ami de la maison.
Eigentlich nicht gingen. Also, ne, Ehebruch. Oder man,
toutes ces liaisons also, avaient lieu sous les radars viel, de ce qui était moralement acceptable.
Von dem, was eigentlich sittlich war. Und
à l'époque, la loi sur le proxénétisme interdisait aux propriétaires de chambres ou d'appartements de louer à des couples non mariés.
Menschen, die Zimmer oder Wohnungen vermieten, das ja nicht an unverheiratete Paare tun.
Da bekommt
c'est là que Berthe Huse
bekommt Idee, eine Schrift
à l'idée de publier une brochure qu'elle appellera Schrift X,
die sie Schrift X nennt und da
dans laquelle elle donne des conseils sur la contraception naturelle,
verhütet, wie man Nachkommen verhindert.
Das war ihre Basis.
Et c'est comme ça qu'elle a commencé.
Sie das Unternehmen gegründet hat. Kondome kamen dann später.
Les préservatifs sont arrivés plus tard.
Kondome waren lustigerweise vor allen Dingen beim Friseur.
Curieusement, en Allemagne à l'époque.
Also Friseure haben so etwas verkauft.
On les trouvait surtout chez les coiffeurs.
Manchmal auch an Automaten, aber es war nicht so, dass du irgendwo hingehen konntest.
Parfois aussi dans des distributeurs automatiques.
Nicht einfach in der Drogerie bekommen hast, sondern vielleicht in der Apotheke.
Mais pas à la pharmacie ou au supermarché.
Diese inneren Hemmungen hast dich wahnsinnig geschämt.
Et on se sentait terriblement gêné d'en acheter, parce que tout le monde pouvait le voir.
Überall gab es Limitationen. Wie du
c'était vraiment compliqué pour une femme de ne pas tomber enceinte.
Das war quasi die Basis ihres Unternehmens.
C'est le point de départ de son entreprise.
Auf der sie aufgebaut hat. Sie hat ja dann auch sehr früh Reizwäsche
puis,
verkauft.
Elle a très vite commencé à vendre de la lingerie sexy.
Reizwäsche.
Très belle, très esthétique.
Und auch
et aussi quelques produits qui seraient un peu exagérés de qualifier d'aphrodisiaque.
Aphrodisiakum wäre etwas zu hoch gegriffen, aber sie hat es als solches verkauft.
Mais en tout cas, elle les vendait comme telles.
Also verschiedene, nicht nur Medikamente, sondern
pas seulement des médicaments, mais aussi des fortifiants, des parfums, des sels de bain.
Oder Badezusätze.
Tout ce qui pouvait, disons, rendre le contexte sexuel un peu plus agréable ou plus facile.
Die Männer sind natürlich
et puis les hommes sont eux aussi devenus clients chez Berthe Huse. Au départ, c'était principalement les femmes, surtout pour la contraception. Mais ensuite, un autre grand problème de l'après-guerre s'est imposé. L'impuissance. Les hommes revenaient du front ou de captivité avec de nombreuses séquelles dues à la faim, mais aussi avec de lourdes blessures psychologiques. Sur le plan sexuel, ils n'étaient plus aussi actifs qu'avant la guerre. Ils n'y arrivaient pas. Cela provoquait une énorme pression, de la déception, beaucoup de honte. Et dans tous les cas, un gros problème au sein des familles.
Gewaltigen Problem innerhalb der Familien, da muss man erstmal drüber reden können. Und,
mais encore fallait-il pouvoir en parler.
Findet, also in ihren Katalogen,
et Berthe Huse, dans les catalogues qu'elle a très vite commencé à produire et à distribuer,
Ton, über
a trouvé le ton juste pour parler de ces problèmes
sprechen zu können.
Qui étaient considérés comme honteux.
Toute la stratégie publicitaire de Berthe Huse était pensée pour s'adresser personnellement aux clients. Sa petite brochure signée Berthe était envoyée directement dans les foyers et invitait les gens à communiquer avec elle.
Sozusagen aufgefordert, mit ihr zu kommunizieren, wenn man so will.
Also sie Kirsten Schapper, Archiviste.
Elle était l'expéditrice. Elle s'adressait elle-même aux gens. Et ses envois publicitaires non sollicités lui ont parfois valu des poursuites. Parce que cela pouvait être perçu comme du harcèlement. Mais on observe aussi une autre réaction, tout aussi forte. Les gens se sentaient concernés et répondaient. À l'époque, on écrivait encore beaucoup de lettres. Cela concernait à la fois les hommes et les femmes, et surtout le mariage.
En s'adressant aux femmes, aux familles, par son matériel de... ces brochures informatives, etc., qui sont certes vendues trop cher, et ce qu'on peut lui reprocher, mais qui ont le mérite, en fait, de répondre à des questions véritablement existentielles et quotidiennes que se posent ces familles. Les brochures de Berthe Huse sont des réponses très concrètes à des problèmes concrets.
En fin de compte,
Elle vendait ce que ses clientes lui demandaient. Il y avait aussi un échange entre l'entreprise Beate Uhse et ses clientes. Les gens demandaient, tu peux aussi fournir un peu de littérature érotique?
Alles, was dem Sexleben von Menschen.
Tout ce qui pouvait améliorer la vie sexuelle des gens était progressivement intégré au catalogue.
Catherine Rönicke, autrice et journaliste.
Mais il fallait toujours garder un équilibre délicat, faire comme si c'était un magasin pour l'hygiène du couple.
Weil man eben wirklich sagen musste, wenn man in diesem Geschäft damals war, unsere Produkte richten sich an verheiratete.
À l'époque, les produits devaient impérativement s'adresser uniquement aux couples mariés. Et à personne d'autre.
Das heißt, man musste auch immer wieder rechtfertigen, warum brauchen denn verheiratete Paare.
Donc, il fallait sans cesse justifier pourquoi les couples mariés avaient besoin de lingerie sexy, de littérature érotique ou de préservatifs à picot.
Und das waren in den 50er und 60er Jahren.
Dans les années 50 et 60, cela concernait des choses aujourd'hui considérées comme anodines. La contraception, la jolie lingerie, les petites histoires érotiques, et même quelques
sextoys.
Il fallait être prudent, parce qu'un godemichet pouvait déjà être considéré comme obscène par la justice. Mais dès qu'il passait l'épreuve de la justice, ce godemichet pouvait être vendu.
Ich möchte nicht aufhören, weil das Leben ist schön mit dem, was man tut. Und stellen Sie sich mal vor, Sie sitzen in Puschen vorm Fernseher und trinken Bier. Das ist doch schrecklich langweilig.
Je ne veux pas m'arrêter, parce que la vie est belle quand on fait ce qu'on aime. Imaginez un peu, vous êtes assis devant la télé, en pantoufles, avec une bière. Mais quel ennui terrible! C'était une histoire particulière, le premier sex shop, une histoire allemande. Premier épisode, libérer les corps. Merci à Dörte Fiedler, Michael Lissek et Südwest Rundfunk pour les archives de Beate Uhse, ainsi qu'à Nadine Rosefloor, Horst-Dieter Adler et Baptiste Coulmont. Un documentaire de Marie Chartron réalisé par Franck Lilin. À suivre, deuxième épisode, le marché de l'érotisme.
Du bist mein Salz in der Suppe und mein Zucker zum Kaffee. Du bist mein Senf für das Würstchen und mein Reis zum Frikassee. Du bist mein Whisky im Soda und mein Pfeffer zum Fiedli. Ja, du bist alles, was ich brauch, wo ich geh und steh. Du bist der Traum meiner Nächte und mein Sekt im Separé. Du bist mein Roman, den ich lese, mein A bis Z vom ABC. Du bist mein Nerz, wenn ich friere, meine Sonne an der See. Ja, du bist alles, was ich brauch, wo ich geh und steh. Man könnte ohne das alles Leben, das hieße einfach ganz schlicht Verzicht. Ja, können kann ich schon, doch wollen will ich nicht. Und wenn ich mal nicht mag, dann mag ich nicht. Du bist mein Unkraut im Garten, meine Fehler, die ich mag. Du bist mein Schloss.